Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. C'était sans aucun doute un monstre, un manipulateur, un opportuniste, un homme d'affaires qui, au tournant du 19e et 20e siècle, a profité des conflits dans de nombreux pays et de la Première Guerre mondiale en particulier, pour vendre de toutes parts et tous côtés confondus 25 000 canons, 240 000 mitrailleuses, 4 millions de fusils et 258 000 obus. Basil Zaharoff, le plus terrible marchand d'armes qui ait pu exister, est paradoxalement un nom un peu oublié aujourd'hui, comme avalé par l'histoire et dont le souvenir est écrasé par les millions de victimes dont il est responsable. Un fantôme dont il ne reste aucune trace ou presque et très peu d'images, à l'exception d'une archive saisie en 1936 à la veille de sa mort à Monte Carlo dans ce documentaire de Angelos Abazoglou.
Voici le plus grand vendeur d'armes que le monde ait connu. Il a 85 ans, Sir Basil Zaharoff. Son métier, pendant 50 ans, fut de fomenter des guerres et d'approvisionner les nations avec des armes de destruction. Il naquit grec et pauvre à Constantinople et mourut un des hommes les plus riches du monde. Puissant, mystérieux, secret, le voilà qui quitte sa demeure de Monte Carlo. Lui seul sait où il se rend.
Bonjour Jennifer Richard.
Bonjour Catherine.
Ce personnage, cet acteur de la grande histoire qui agissait dans l'ombre, vous avez choisi de le mettre au cœur de votre nouveau roman. Et après, Il est à toi, ce beau pays, qui revenait sur les colonisations du continent africain par l'Europe. Voici une toute autre approche du mal et de ses incarnations à travers le parcours de Basil Zaharoff que vous restituez dans Le diable parle toutes les langues aux éditions Albin Michel. Quand et pourquoi vous êtes-vous intéressée à cet homme, Jennifer Richard?
Basil Zaharoff est un personnage oublié aujourd'hui qui m'a intéressée pour une raison un peu lié au hasard au départ, puisque après Il est à toi, ce beau pays, pardon, j'ai tendance à dire ce gros pays parce que le livre est absolument lourd, vraiment lourd à porter, donc Il est à toi, ce beau pays, j'avais besoin de préciser mon propos. On m'a beaucoup parlé de Léopold II, le roi des Belges, à la suite de ce livre, alors que mon propos n'était pas de parler seulement de Léopold II, le but était de parler du marché de manière générale. Et j'ai voulu préciser mon propos. Et mon mari trouve un article sur Basil Zaharoff en me disant « Peut-être que ce serait un bon personnage si tu veux parler vraiment du capital. » Et Basil Zaharoff est le capital. Basil Zaharoff est quelqu'un qui prospecte en permanence sur de nouveaux marchés dans tous les pays et pour l'avenir. C'est-à-dire qu'il se place toujours dans les progrès qu'on peut faire dans les sciences, en sport, en médecine, pour savoir où est-ce qu'il va pouvoir se placer. Il est tout le temps en train d'évoluer, de grossir et il est quasiment immortel. Il se croit immortel, en tout cas. Et alors, ce qui m'a décidé à me saisir de lui, c'est que je découvre qu'en 1915, Basil Zaharoff achète à sa maîtresse le château de Balincourt, qui est au nord de Paris. Et il achète ce château à la maîtresse de Léopold II. Château que Léopold II lui avait offert avec l'argent de sa colonie congolaise. Et en 1915, je me dis, un homme est capable d'acheter un château. Quand tout le monde est en train de mourir en Europe et dans le monde, lui, il achète un château, mais immense. Donc c'était mon homme. Voilà, je me suis dit, Basil Zaharoff va tenir mon propos.
Donc le quand, finalement, c'est assez récent. Le pourquoi, vous venez aussi de nous l'expliquer, parce que ça fait le lien avec votre premier roman.
Exactement.
Et avec cette articulation avec Léopold II. C'est un peu, effectivement, le hasard, mais un hasard qui fait bien les choses. Donc, vous nous dites, Jennifer Richard, qu'il incarne
le marché.
Le marché, le capital, l'argent, et comment l'argent circule particulièrement à cette époque. Et vous nous dites aussi que, sans doute, il y a quelques années, vous non plus, vous ne connaissiez pas son nom, alors que, et vous le rappelez, il était très célèbre à son époque. Par exemple, il apparaît à peine caricaturé sous la plume d'Hergé dans un album de Tintin.
Dans L'Oreille Cassée.
Mais aujourd'hui, néanmoins, son nom est oublié de la majorité des gens. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Ou alors c'est peut-être la continuité justement de cet homme qui a beaucoup entretenu l'ambiguïté, le mystère, le secret.
Il s'est dit énormément de choses au sujet de Basile Zaharoff. Il s'est tout dit, c'est-à-dire que c'est un personnage à la fois fascinant pour un romancier et en même temps un peu gênant parce que tout s'est dit pendant les années 30. Donc il est mort en 1936 à l'âge de 86 ans. Vous voyez, il a œuvré. Il a été de tous les mauvais coups pendant 66 ans, disons. Il a été actif à partir de sa vingtaine. Et jusqu'à sa mort, il a été très actif. Et pourtant, en effet, il est tombé dans l'oubli. Parce que je pense qu'il a donné lieu à beaucoup de rumeurs, beaucoup de légendes. On lui a mis sur le dos le meurtre de Jean Jaurès. On a dit qu'il était impliqué même dans le meurtre de Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht. On a beaucoup exagéré, ce qui fait qu'à un moment, je pense qu'on s'est un peu lassé de toutes ces légendes autour de ce personnage et on s'est dit, bon, c'est un peu délirant, on va arrêter avec ça. Et pour moi, romancière, c'est un peu gênant de se dire que la réalité est beaucoup trop riche pour de la fiction. Ça ne devient pas crédible, en fait, quand vous avez une réalité aussi riche. Donc, il faut élaguer, il faut aller au cœur de ce qui est vraiment crédible, plausible. Et j'ai évacué de mon roman certaines rumeurs en me disant « mais ça sert à rien d'en rajouter, la réalité est suffisamment riche ». Donc je me suis emparée de ce personnage sur lequel on a dit trop de choses pour le remettre au goût du jour avec un peu plus de réalité, de réalisme en tout cas.
Effectivement, vous disposiez d'assez peu de traces. D'abord parce qu'on l'a dit, il a construit sa légende, ses mémoires ont été volées, brûlées, en tout cas ont disparu. Donc Jennifer Richard, ça laisse à la romancière que vous êtes effectivement beaucoup de prises, mais c'est à la fois un piège et à la fois une chance. Est-ce que ça veut dire que vous vous êtes raccroché plutôt à la réalité, à la documentation pour nourrir ce livre? En d'autres termes, comment est-ce que vous avez travaillé?
J'ai tout lu. J'ai lu les livres, les biographies qui avaient été écrites sur lui, donc dans les années 30. Il y en a certaines qui ont été écrites avant sa mort. Ensuite, il y a une biographie en 73, je crois, un roman de 2013, une autre biographie de 2019. J'ai lu tout ça. J'ai lu tous les articles de presse en France, aux États-Unis, en Allemagne. J'ai lu les biographies de tous les armateurs, donc les Krupp, les Vickers, pour vraiment avoir une idée du marché de l'armement. Alors le marché, hein, je précise que Basile Zaharoff n'était pas un trafiquant d'armes, il était marchand d'armes officiel, il travaillait pour les États, c'était pas du tout sous le manteau. Donc j'ai tout lu et il y avait une question, il restait une question à la fin de toute cette documentation, pourquoi tout le monde, avant tous les historiens qui se sont penchés sur la question, affirmait que Basile Zaharoff avait une ligne de conduite et s'était refusé de collaborer avec le régime nazi. C'est-à-dire qu'on voit que l'homme est sans scrupules absolument dans tous les domaines, mais pas en tant que Basile Zaharoff, en tant que marchand. C'est le marché qui veut ça, c'est pas lui qui est particulièrement diabolique ou opportuniste. Le marché veut ça. Alors pourquoi lui, on lui prêtait cette éthique, tout d'un coup, non, il n'aurait pas collaboré avec le régime nazi. Bon, je recherche, donc grâce à l'Institut français, j'ai pu effectuer une mission de recherche à Berlin, et je trouve dans les archives une note du secrétaire du parti nazi de 1932 indiquant que Basile Zaharoff est le plus grand donateur étranger du parti nazi. Donc là, je me dis, bah voilà, c'est cohérent. Et j'ai pu saisir complètement le personnage à ce moment-là, qui à la fois fait des affaires avec un des grands instigateurs de la révolution bolchévique en 1917 et en 1932 finance le parti nazi. L'homme est de tous les combats, de tous les mouvements politiques, pourvu que ça lui rapporte. C'est vraiment l'incarnation parfaite pour moi du marché.
C'est aussi l'incarnation d'une réussite exceptionnelle et j'aimerais bien avec vous, Jennifer Richard, peut-être revenir sur les débuts et le présenter à nos auditeurs et à nos auditrices en quelques mots, en tout cas les grandes étapes de cette existence. Donc a priori, il naît en 1849 près de Constantinople dans l'Empire ottoman, c'est cela ?
C'est ce que j'ai choisi d'affirmer parce que c'est une des théories les plus étayées, mais on n'est pas sûr de ça.
En tout cas, il naît dans ce qui va devenir la Turquie.
Oui, alors c'est pas sûr non plus. C'est pas certain qu'il soit vraiment né dans l'Empire ottoman. On a aussi dit qu'il était né en Russie. Donc, l'Empire ottoman était quand même très grand, donc on a quand même plus de chances qu'il soit né dans l'Empire ottoman. J'ai choisi cette version-là, en effet.
Mais côté grec.
Et lui aurait eu des origines grecques. C'est ce qui est le plus plausible également.
Et donc, c'est un enfant dont on pense qu'il a vécu dans une famille très pauvre et qui est totalement autodidacte. Alors, comment est-ce qu'il devient polyglotte, à l'image du titre de votre roman, Jennifer Richard, puisqu'en effet, ça, pour le coup, je crois qu'on en a la certitude, il parlait une dizaine de langues couramment. Comment devient-il cet entremetteur, cet expert en armement, en finance, voir cet homme de culture, comme on va le découvrir au fur et à mesure de votre récit? Est-ce que c'est un hasard? C'est de l'opportunisme? Est-ce qu'il a un sens exceptionnel des affaires? Est-ce que c'est une revanche sur l'enfant très pauvre qu'il a été? Racontez-nous.
Encore une fois, je ne peux que vous dire l'option que j'ai choisie parmi celles qui se présentent sur Basil Zaharoff, parce qu'on a aussi dit qu'il venait d'une famille très, très riche et qu'il avait fait des hautes études. Moi, j'ai plus souvent lu qu'il venait d'une famille assez pauvre de Constantinople, donc un empire qui est déjà polyglotte, et qu'il avait en effet voulu se sortir de cette misère, puisque dans l'Empire ottoman, quand on n'était pas turc musulman, on était un dhimmi, c'est-à-dire qu'on était quand même sous tutelle. On faisait partie des peuples, des sous-locataires de l'Empire ottoman, comme on disait, et qu'il aurait voulu s'extraire de ça et ne pas reproduire le schéma de son père qui aurait été un marchand de caftans qui ne pouvait que accéder à une petite bourgeoisie. Lui, il rêvait de beaucoup plus grand. Et je pense, ce qui a été à peu près documenté, c'est qu'assez jeune, il a rencontré un représentant des armes Nordenfeld, auprès de qui il s'est engagé pour vendre un sous-marin à la Grèce, à l'époque où les sous-marins coulaient la plupart du temps, donc les essais techniques étaient généralement peu concluants, mais on voulait quand même être sur le coup. Si un jour la technique évoluait, il fallait vraiment qu'on soit les premiers à avoir les brevets et les appareils. Et ensuite, immédiatement, il est allé vendre un sous-marin à la Turquie, enfin à l'Empire ottoman.
Voilà, c'est un homme qui jouait sur les deux tableaux.
Il joue sur les deux tableaux à chaque fois, ouais. en faisant grandir les rumeurs de guerre, de conflits possibles pour exciter la paranoïa des États les uns contre les autres. Mais ça, encore une fois, on a dit que c'était le système Zaharoff. Mais quand on regarde les biographies de la dynastie Krupp ou des Vickers, en fait, c'est un système tout à fait normal et c'est ce qu'on observe encore aujourd'hui. On peut pas se contenter de vendre des armes seulement à un parti, on va forcément vendre des armes à tout le monde. Donc c'est pas tellement le système Zaharoff, c'est vraiment le système du marché de l'armement et puis même de absolument tout le commerce, à mon avis.
Et voilà comment cet homme devient surpuissant, à la tête d'une fortune colossale, qu'il acquiert, comme vous le disiez tout à l'heure, ce château de Balincourt, oui. Où vous racontez une scène extraordinaire, le mariage de sa fille adoptive, Angèle, qui en fait était la fille de cette femme qu'il a aimée longtemps, Pilar, qui était marié à l'époque, mais qu'il va finir par épouser. Et dans cette scène, vous imaginez, Jennifer Richard, qu'au milieu de toutes ces stars de l'époque, il ouvre le bal avec sa fille sur la valse des fleurs de Tchaïkovski.
Thank you.
Vous êtes toujours à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI avec aujourd'hui Jennifer Richard, notre invitée pour son roman intitulé Le Diable parle toutes les langues aux éditions Albin Michel. Alors après le portrait historique de ce marchand d'art que vous avez dessiné en première partie, voici le temps du portrait littéraire. Avec ce récit qui est donc articulé en deux temps. D'une part, les mémoires de Basile Zaharoff, en tout cas celles que vous lui prêtez et qui remontent sa vie de 1849 à Constantinople jusqu'au dernier jour de sa vie en novembre 1936 dans un grand hôtel à Monte-Carlo. Et d'autre part, les conversations entre lui et sa fille adoptive, Angèle, issue, on l'a dit, du premier mariage de la femme qu'il a aimée, Pilar. Restons sur ce procédé narratif, Jennifer Richard, parce que on peut se demander pourquoi vous avez choisi, vous, d'écrire les mémoires de Basile, sachant que, par principe, une autobiographie est rarement une autocritique et plutôt souvent une auto-justification. Donc là, vous vous frottez presque au diable lui-même en se glissant dans son esprit.
Exactement. C'est pour ça que, en effet, il m'a semblé important d'avoir deux voix. C'est-à-dire, il y a une voix qui serait plus objective dans les dialogues avec sa fille. Et je précise que ce rapport entre le père mégalomane et la fille humble est assez documenté. La fille de Basile Zaharoff, parce qu'il l'a adoptée, peut-être parce que c'était sa fille biologique. On ne sait pas trop. Les descendants le savent certainement, mais on n'est pas sûr. En tout cas, on a les documents de Basile informant son ami Georges Clémenceau qu'il a adopté deux des trois filles de Pilar, dont Angèle. Et Angèle, ce qui est vraiment intéressant, c'est que elle a refusé d'être enterrée au château de Balincourt, contrairement à sa mère Pilar, contrairement à son père officiel avant Basile, qui était le duc de Marchena, et contrairement à Basile, parce que Basile, Pilar et le duc de Marchena, le premier mari de Pilar, sont tous les trois enterrés dans une crypte à Balincourt, ce qui est étonnant, parce que le mariage à trois a duré même après la mort. Angèle, donc, a préféré être enterrée au village, hors de ce domaine, comme si vraiment, par-delà la mort, elle voulait s'extraire complètement des méfaits de son père. Et je trouve ça très intéressant. Donc, Angèle me semble la conscience de Basile, celle qui essaie de lui faire, de le mettre face à la réalité, face à ce qu'il a vraiment fait au cours de sa vie. Et l'autre temps, en effet, donc les mémoires, comme vous dites, sont rarement une autocritique. Alors là, en effet, Basile se justifie. Je suis un peu gênée de parler de ça parce que ce personnage me gêne, en fait, si vous voulez. Le fait que moi, je lui ai prêté des cas de conscience qu'il n'avait peut-être pas. Et j'ai moi-même mis cette dichotomie dans le texte, c'est-à-dire que parfois, il assume complètement ses erreurs et il est d'une froideur glaciale. Et parfois, il a ses doutes. Et c'était les miens, en fait. C'est pour ça que je ne sais pas à quel point lui, il a pu éprouver ses doutes jusqu'au moment de mourir, quand il a vraiment été face au grand saut dans l'éternité. Est-ce qu'il s'est vraiment rendu compte de ce qu'il avait fait?
Donc ça veut dire qu'il y avait un duel en vous, en l'écrivaine que vous êtes, Jennifer Richard. Ouais. À la fois, vous assumez ce personnage, son dysfonctionnement, son opportunisme, enfin, voilà, tout ce qu'on a dit jusqu'ici. Et en même temps, d'une certaine façon, vous essayez peut-être de lui donner lui aussi une conscience.
Oui, exactement. Et c'est problématique parce qu'à partir du moment où on lui donne cette conscience et s'il se rendait vraiment compte des choses et qu'il avait vraiment envie de faire amende honorable, bah dans ce cas, oui, il faut pardonner à cet homme comme à tous les hommes qui, à un moment, se rendent compte de leurs méfaits. Et dans ce cas, j'aurais été prise de compassion. Donc ça m'arrivait pendant l'écriture d'être prise de compassion. Et puis en même temps, je me dis, mais non, en fait non, cet homme n'a pas pu prendre conscience des choses, c'est impossible. Quand on a tant de matière, quand on a accumulé tellement de pouvoir et qu'on l'a exercé jusqu'à la fin, jusqu'à la toute fin de sa vie, vraiment. Il est mort en novembre et l'été précédent, il était encore en train de faire des affaires avec les Autrichiens et les Allemands. Donc j'y croyais pas tellement, en fait, à cette prise de conscience. Mais il me semblait vraiment plus intéressant de lui donner quand même. Donc j'étais tiraillée. Dans la dernière scène, la scène de sa mort, je suis tiraillée entre est-ce qu'il regrette, est-ce qu'il ne regrette pas. Donc, il est là, il se débat dans sa baignoire, en train de mourir, d'étouffer, Et finalement, je crois qu'il a quand même gagné, c'est ça qui est terrible.
Donc vous le rachetez un peu par la littérature.
Exactement, je le rachète et en même temps, malheureusement, j'ai appelé ce roman « Le diable parle toutes les langues » parce que je crois que Basile, qui ne voulait pas mourir, Basile qui se croyait immortel et qui à un moment se rend compte qu'il est mortel, il se rend compte à la toute fin qu'il est vraiment en train de mourir et que cette fois-ci, non, il ne pourra plus faire partie du marché. Mais le marché existera quand même malgré lui, malgré la disparition de cet homme qui était omniprésent et omnipotent, le marché va continuer. Donc, en quelque sorte, Basile Zaharoff est quand même immortel.
De même que par ce parti pris littéraire d'écrire ses mémoires, ça fait une mise en abîme de l'écriture. Et voilà ce qu'il écrit, enfin ce que vous écrivez tous les deux, du coup, page 273. L'écriture me sied mieux le matin. La lumière du soleil ascendant, le chant des oiseaux et les mouvements des vivants me débarrassent de la peur de la nuit. Certains jours même, je me sens moins insignifiant et j'éprouve le sentiment profond de pouvoir porter en toute légitimité la voix d'un homme sur cette terre. Il faut trouver la bonne lunette pour avoir la juste mesure de la place que l'on occupe ici-bas. Il faut savoir appréhender son espace d'influence et ne jamais perdre de vue les termes de sa propre mesure. Ni humble, ni présomptueux, c'est mu par le goût de l'histoire que j'entame ce chapitre. Fermez les guillemets. Et vous, Jennifer Richard, vous avez un peu ce même lien à l'écriture ?
Moi, je ne vais pas du matin, pour commencer. Donc, c'est un peu différent. Et je n'ai pas tellement peur du noir. Et Basile a peur du noir. Basile a peur des fantômes. Basile a peur des bruits qu'il entend dans son château. Et ça fait une partie du roman. Mais je pense que je ne suis pas très loin de la réalité. Donc, moi, je suis pas tellement. Je n'ai pas ces problèmes-là, en tout cas.
Vous n'avez pas été visité par son fantôme, en tout cas ?
Pas encore.
Vous avez passé de bonnes nuits. Je me demandais comment est-ce que vous abordiez l'écriture. Est-ce que quand vous alliez écrire à son sujet, c'était comme un homme à fustiger, à détester, celui qui a rencontré Hitler, celui qui a financé les nazis, ou comme un sujet à décortiquer ?
Un sujet à décortiquer, exactement, parce que encore une fois, Basile Zaharoff, pour moi, c'est un exemple. Et si Basile Zaharoff était le problème de l'humanité, il n'y en a pas beaucoup des Basile Zaharoff. Des gens qui, en effet, qui parlent 12 langues, qui sont capables de s'adapter à leur interlocuteur dans toutes les cultures, tous les pays, toutes les religions. Ils ne sont pas non plus légions, ces hommes-là. Donc si c'était vraiment le problème, on ne serait pas dans cet état-là, avec une nature complètement ravagée, des guerres dans tous les sens pour contrôler les ressources. Donc Basile Zaharoff, c'est un exemple pour moi, pour essayer de comprendre pourquoi on laisse faire, pourquoi guerre après guerre, on continue docilement d'obéir à leurs ordres, parce que d'une part, on n'est pas forcément au courant, c'est-à-dire qu'ils agissent quand même un peu dans l'ombre, mais on sait suffisamment de choses, on sait que on peut pas gagner une fortune comme ça, honnêtement, on peut pas être un si grand donateur et être vraiment un philanthrope. Moi, j'y crois pas une seconde que quand on est capable de donner des millions et des millions à des œuvres, on a gagné cet argent honnêtement et que ça sert pas en fait à se racheter quelque chose, pas une conscience, mais ça sert à se racheter une image. Donc c'est lui aussi qui insuffle une politique aux hommes d'État.
Mais j'ai l'impression que l'enjeu de ce roman, Jennifer Richard, c'est pas tellement de dire c'est un monstre, parce que il y a eu des monstres avant lui, il y en a eu après lui, et de toute façon, ils se succèdent dans l'ombre, ces instigateurs de guerre qui se font de l'argent sur beaucoup de victimes. J'ai l'impression que l'enjeu, c'est plutôt de dire, si dans l'entourage, il y a une personne qui peut éventuellement leur faire prendre conscience. Donc ici, c'est Angèle, qui en effet est une femme très responsable, qui en même temps ne peut pas s'empêcher de l'aimer jusqu'à son dernier souffle. C'est très beau aussi, mais il l'a élevé comme un père. Mais s'il y a dans l'entourage une personne, de même qu'il va recevoir une longue lettre d'une femme, d'une Irlandaise, qui a perdu son fils dans la guerre, qui est vraiment poignante, juste pour un tout petit peu faire changer les choses, un geste, et c'est déjà ça qui peut faire changer le monde.
On peut l'espérer, mais j'ai l'impression qu'en observant les politiques actuelles dans tous les pays et dans vraiment tous les régimes, là il n'est pas du tout question de pointer du doigt un régime ou un autre, J'ai l'impression que ça suffit pas, parce que on a, je pense qu'il y a des personnes, je pense qu'il y a plus d'Angèle que de Basile Zaroff. Malheureusement, le pouvoir de la vertu est beaucoup moins spectaculaire et peut-être moins actif que le pouvoir de l'argent, le pouvoir de... que le cynisme. Donc les Basile Zaroff, en étant si peu nombreux, gagnent quand même.
Mais si vous ne croyez pas à la possibilité du changement, ce livre, alors, vous le destinez à qui? Enfin, je veux dire, ce livre, il a quelle valeur pour vous? Pas pour éclairer un peu les esprits?
Si, bien sûr, parce que je suis pas... En fait, tant qu'on est vivant, il y a un peu d'espoir. C'est-à-dire que je suis très pessimiste. Je suis pessimiste, mais j'ai envie de croire qu'on va se responsabiliser et on va demander des comptes. On peut se rendre compte qu'en effet, en tant que citoyen, on a peu de pouvoir, mais on a quand même une liberté. On doit avoir une lucidité pour observer les directions qui sont prises par nos gouvernements. On doit observer, on a quand même quelques informations suffisantes pour savoir que les choses qui nous sont dites ne sont pas présentées de la bonne façon et qu'en vérité, les conflits dans lesquels l'armée française s'engouffre ne sont pas forcément menés pour le bien ou pour sauver les populations sur place. En fait, il y a d'autres raisons. Et quand vous parlez de ça aux gens, tout le monde dit « mais bien sûr, on le sait ». Oui, mais on le sait, mais on laisse faire. Et c'est ça qui est vraiment fatigant, c'est qu'on sait suffisamment de choses, on n'a pas besoin d'aller creuser... dans des documents secrets, hein. On n'a pas besoin d'exhumer beaucoup de choses pour se rendre compte que la politique n'est pas transparente. Et je suis un peu, je suis un peu amère en voyant que les choses se poursuivent depuis 14-18, rien n'a changé, sauf le marché. Le marché change puisque les grands industriels n'existent plus tellement, du moins en France, et que maintenant on a affaire à un capitalisme numérique, c'est-à-dire qu'on n'a même plus besoin des ouvriers, on a besoin juste des consommateurs. Donc ça a beaucoup changé, mais c'est toujours la même chose. Donc moi j'attends juste qu'on se réveille un jour et que tous ensemble, on puisse décider d'une autre, une autre direction pour la civilisation.
Donc c'est un appel à l'insurrection.
Exactement, voilà, merci.
La littérature.
Exactement, merci de l'appeler comme ça, c'est exactement ça.
Pour finir... Basile Zaharoff, dans ses mémoires que vous écrivez, donc Jennifer Richard, fait plutôt l'éloge de l'Allemagne comme un pays qui l'a beaucoup marqué parmi tous ceux où il a travaillé et vécu. Il se trouve que vous vivez à Berlin, vous.
Exactement.
Aussi.
Oui.
Est-ce que c'est pas étrange pour vous de vous promener dans des rues qu'il a sans doute arpentées?
Berlin, c'est étrange pour tout ce que ça implique en termes de rappel à l'histoire. Mais bon, ceci dit, Paris aussi. Enfin, toutes les villes européennes sont vraiment très marquées par l'histoire. Berlin, c'est particulier. C'est une ville qui a été coupée en deux. Donc, vous avez vraiment deux ambiances et deux pays différents qui peuvent encore se sentir aujourd'hui. Donc, vous sentez Basile Zaharoff, mais vous sentez évidemment... Il y a encore les réverbères d'Albert Speer, par exemple, sur une grande avenue à Berlin. Il y a encore la villa de Goebbels dans la forêt. Il y a des vestiges qui sont un peu abandonnés, qui sont un peu cachés, mais on les trouve si on veut aller les chercher. Donc c'est très étonnant comme ville. Donc oui, c'est assez fascinant pour ça.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Jennifer Richard, je rappelle le titre de ce nouveau roman, Le diable parle toutes les langues. Et c'est un roman qui est apparu aux éditions Alma Michel.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard. C'est pas du vent.